patriarca, patriarca, patriarca, patrie, patriarca, patrie. Le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme.
Bonsoir, vous êtes bien sur Dégenré, donc ce soir une émission sur les femmes kurdes dans la lutte armée. Alors on avait envie de parler de ce sujet déjà un peu dans une série d'émissions qu'on voulait aborder sur l'investissement, la place des femmes dans la lutte armée, donc plutôt dans des mouvements révolutionnaires d'extrême gauche. Alors ça nous intéressait la place que peuvent prendre les femmes dans ce genre de mouvement parce que ça représente un peu une sorte de double transgression. Déjà, il y a la transgression qui va être la même pour les hommes ou pour les femmes, c'est-à-dire que la violence légitime, la violence légale, c'est l'apanage de l'État hein, dans toutes les sociétés. Donc quand je parle de violence légale, ça va être par exemple la police ou l'armée. Donc le fait d'utiliser les armes ou d'utiliser la violence dans une manière non légale, c'est déjà une transgression par rapport à la loi. Mais pour les femmes, il y a aussi une double transgression qui sont plus des normes de féminité. C'est-à-dire que le rôle assigné aux femmes, ça va être en général donc, de s'occuper des autres, de soigner les autres, d'être douce, attentionnée, etc. Certains mouvements ou certaines luttes ou en temps de guerre, souvent on va leur demander plus d'être dans des rôles par exemple d'infirmière ou de s'occuper du ravitaillement, des vivres, etc. Et le fait que des femmes prennent les armes, c'est aussi une transgression par rapport aux normes de féminité. Là du coup on a voulu se pencher sur les femmes dans la lutte armée kurde. Donc, qui est à la fois un mouvement de libération nationale, donc par rapport à l'identité kurde, et aussi un mouvement qu'on peut qualifier de communiste, marxiste-léniniste. Et c'est un exemple assez unique au niveau des femmes, parce qu'elles ont créé en fait leur propre armée, leur propre organisation, qui est autonome et indépendante par rapport aux hommes. même s'il y a une lutte commune, elles ont leur propre stratégie, leur propre armée, donc de manière indépendante, en non-mixité. Donc ça, c'est un exemple qui est assez unique. Nous, ça nous intéressait aussi ce choix de la non-mixité. Par exemple, c'est quelque chose qui peut être critiqué, parce que souvent, la non-mixité, c'est vu comme réactionnaire, parce qu'on pense en fait à une ségrégation entre les sexes. C'est aussi une critique qui est pas mal faite, souvent d'un point de vue occidental, de voir la non-mixité comme obligatoirement quelque chose de réactionnaire. Nous, ce qu'on pense, en fait, c'est qu'il ne faut pas confondre la non-mixité patriarcale, donc qui est imposée par les hommes. Et dans ce cas-là, le but, c'est plus de confiner les femmes à certaines sphères, comme par exemple la sphère domestique, s'occuper de la maison, des enfants, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, la non-mixité, en fait, elle est patriarcale, elle est réactionnaire. Mais ça n'a rien à voir avec le choix de la non-mixité par les groupes opprimés eux-mêmes, elles-mêmes. Comme par exemple, le choix des femmes kurdes, ça n'a pas été imposé par les hommes, c'est au contraire un truc qu'elles ont lutté pour pouvoir lutter de manière indépendante. Et c'est aussi intéressant parce que je trouve aussi en regard de luttes qui peuvent se passer ici, enfin, ou par exemple en France, où elles sont vraiment dans un discours de lutter conjointement pour la reconnaissance de l'identité kurde et contre le patriarcat pour l'émancipation des femmes. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on peut entendre, dans des luttes anticapitalistes, où ça serait alors une hiérarchisation des luttes. En fait, d'abord la lutte anticapitaliste, et ça serait comme si, comme par miracle, ensuite viendrait la libération des femmes. Et ça, nous, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de porter. Toutes les luttes contre des oppressions, contre des systèmes de domination, elles n'ont pas à être hiérarchisées, elles ont à être faites conjointement, parce que ça ne va pas venir comme par miracle ensuite. C'est intéressant, ce mouvement autonome des femmes kurdes dans la lutte armée, parce que c'est quelque chose qui est vraiment subversif, qui remet en cause les rôles masculins, féminins, préétablis, dans une société aussi fortement patriarcale. Puis par rapport, par exemple, à ce choix de la non-mixité, c'est bien de... d'avoir en tête que, par exemple... au Kurdistan, refuser de se marier, par exemple, pour une femme, c'est vraiment quelque chose de subversif. Et il y a aussi, par exemple, on va plus l'aborder plus tard, beaucoup de femmes qui ont rejoint cette lutte pour échapper à leur famille ou à une oppression, par exemple, à l'intérieur de la famille ou à un mariage forcé, etc. Mais on va revenir là-dessus au cours de l'émission avec des interviews, des présentations de films, de livres, etc. Et puis, pour se mettre dans l'émission, on va écouter un morceau de musique. Donc, c'est un morceau de Ayse San, qui est une chanteuse kurde célèbre, qui a longtemps été interdite et censurée. Donc, il faut savoir que la musique kurde était complètement interdite, censurée, que ça devait se faire plus ou moins sous le manteau, de manière illégale, etc. On va commencer par écouter ce morceau.
Thank you. mene hoye sor sosne hanana kiye mal miratu kayt qemishe zerana kiye gidiloloy gidilolo bare seroye ay gidiloloy gidiloloy gidiloloy gidiloloy ya gidiloloy gidiloloy gidiloloy ya gidiloloy gidiloloy gidiloloy gidiloloy gidiloloy bare serane
Alors avant de parler plus précisément des femmes dans la lutte armée au Kurdistan, on va essayer un peu de voir plus précisément c'est quoi un peu le Kurdistan, c'est où déjà, c'est quoi l'histoire du peuple kurde. Bon, alors comme c'est une histoire très très longue et très compliquée, genre ça commence des siècles avant Jésus-Christ, vous voyez tout ça. Et ben moi en fait j'ai décidé de juste parler du 20e siècle et déjà il y a pas mal de choses à dire. Bon, alors déjà pour situer le Kurdistan, ça se trouve en Asie occidentale, donc c'est pas un pays en soi. C'est en gros sur quatre pays, sur la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et 50% du territoire de ce qu'on peut estimer correspond au Kurdistan est en Turquie. Et ce territoire, il fait à peu près 500 000 km², mais c'est difficile à estimer puisque tout le monde n'est pas d'accord sur comment le délimiter. Et il y aurait de 25 à 30 millions d'habitants, pareil à peu près la moitié en Turquie. Donc en gros, après la Première Guerre mondiale, il y a la chute de l'Empire ottoman. Du coup, cet empire dominait un peu tous ces territoires-là. Et il devait y avoir une nation kurde de créer. Ça, c'était prévu dans le traité de Sèvres, qui est un des traités qui a eu lieu après la Première Guerre. Mais ce traité, il n'a jamais vraiment été ratifié. Et en fait, le traité de Lausanne de 1923, qui décide de qu'est-ce qui se passe après la Première Guerre, et notamment à l'ancien empire ottoman, oublie complètement cette idée d'un État kurde. Et met pas mal des pays, dont l'Irak, la Syrie, tout ça, sous des mandats européens. Et un des enjeux, en fait, de ces pays-là, c'est qu'ils sont riches en eau et en pétrole. Et du coup, forcément, tout au long du XXe siècle, ils vont un peu payer ça, quoi. Alors, très vite, les Kurdes se révoltent contre la domination européenne qui se passe dans ces régions-là. Et en Turquie, il y a une montée du nationalisme kurde qui se fait assez fortement en réaction au changement de régime en Turquie. En fait, qui est un régime qui va être plus sur un renforcement du système central, par exemple. Du coup, les chefs locaux des régions kurdes perdaient du pouvoir. Et d'autres changements comme ça, qui n'allaient pas en fait au peuple kurde. Alors, je vais un peu parler de la situation justement des peuples kurdes dans ces quatre pays que j'ai nommés tout à l'heure. Alors, je vais commencer par la Syrie. Donc, en Syrie, les Kurdes constituent à peu près 6% de la population. C'est surtout des exilés kurdes qui ont quitté la Turquie, qui ont fui la Turquie entre 1924 et 1938. Et les régions kurdes sont sous le contrôle de l'armée. Alors, il y a eu des soulèvements assez importants du peuple kurde en 2004-2005 qui ont donné lieu à une très forte répression de l'État de Syrie. Et alors, sur les droits un peu des Kurdes, en Syrie, parler kurde, c'est autorisé. mais par contre, c'est interdit de l'enseigner et les publications en kurde sont interdites. Et un problème qui est assez spécifique à la Syrie, c'est qu'en fait, il y a un refus de l'État d'enregistrer les noms sous des noms kurdes, les gens sous des noms kurdes, mais ça, c'est pas qu'en Syrie. Mais le problème, du coup, c'est qu'on se retrouve avec des milliers de gens qui n'ont aucun droit social, qui n'ont pas de nationalité, en fait. La nationalité syrienne leur est refusée. Et du coup, ils sont un peu bloqués, ils ne peuvent pas quitter le territoire et ils sont dans des situations assez dures, quoi. Ça, a priori, le gouvernement a annoncé que ça allait changer et qu'ils allaient accorder la nationalité à pas mal de Kurdes. Mais bon, c'est un peu à voir. Alors ensuite, en ce qui concerne l'Iran, donc là, les Kurdes constituent 7% de la population. Les régions kurdes sont aussi sous surveillance de l'armée. La langue kurde est reconnue, par contre, et il y a aussi des députés kurdes au Parlement. Mais il y a aussi quand même de nombreux prisonniers politiques. Alors, il y a une république du Kurdistan qui a été déclarée dans une partie de l'Iran en 1946. Il y a eu dans différents pays comme ça, quelques moments, il y a eu des républiques qui ont été déclarées, mais ça n'a jamais duré longtemps. Et là, par exemple, en Iran, c'était parce qu'il y avait l'occupation soviétique qui soutenait ça. Mais quand les soviétiques sont partis quelques mois plus tard, eh ben, le gouvernement iranien est revenu en force et voilà, la République a été supprimée, le président pendu, tout ça. Après, bon, bah, c'est l'histoire de l'Iran, quoi. Il y a eu plusieurs révolutions, des coups d'État et tout ça. Et à chaque fois, les Kurdes ont été une des populations visées par la répression et par des interdictions, comme les interdictions de partis politiques d'opposition, interdiction de parler le kurde pendant tout un moment. Et on peut aussi peut-être parler plus précisément de la guerre sainte qu'avait déclarée Roménie entre 1979 et 1982 contre les Kurdes, où là, l'armée iranienne a été envoyée dans les territoires kurdes et ça a fait, on estime, 10 000 morts, quelque chose comme ça. Voilà, après, il y a eu toujours, dans les années 90, des troubles, des représailles, toujours ce jeu-là, en fait, d'accalmie et de moments un peu plus durs, avec toujours une répression très forte. Et les derniers en date, à ma connaissance, c'est en 2007, quand il y a eu des militants kurdes qui ont été tués. Du coup, ça a donné lieu à des manifestations et des émeutes. Et là, c'est pareil, il y a une répression très, très forte. Et il y a du coup des journaux kurdes qui ont été fermés, de nombreuses arrestations de journalistes et d'éditeurs, d'éditrices, dont une femme qui s'appelle Roya Toloui. Alors peut-être je prononce très mal, et ça va durer dans toute l'émission, comme je ne maîtrise pas du tout ni le kurde, ni le turc, ni ces langues-là. Donc désolée d'avance. Et donc voilà, cette femme, c'était une militante féministe assez connue, et elle éditait aussi un journal. Donc elle a été arrêtée pendant 2 mois, elle a été torturée juste pour sa participation à des manifestations. Voilà, alors maintenant en Irak. Alors en Irak, les Kurdes constituent 17% de la population. Le Kurdistan irakien, c'est la seule partie du Kurdistan qui a vraiment une reconnaissance officielle en fait. Ils constituent une entité fédérale, ils ont leur propre armée et ils ont leur propre gouvernement local. Mais bon, là aussi, ça n'a pas toujours été la fête en Irak pour les Kurdes. Déjà, bon, alors c'est pas dans les années 70, il y avait déjà cette idée d'un État kurde un peu autonome au sein de l'Irak. Mais là, c'est pareil, en fait. Comme il y avait beaucoup de pétrole, finalement, le gouvernement a dit « Ah non, non, en fait, non ». Donc, ils ont juste pris des Kurdes qu'ils ont déplacés. On estime à 200 000 Kurdes... des gens déplacés en fait de leurs terrains ancestraux vers d'autres lieux quoi, pour un peu démanteler tout ça et pour que les gens aient plus de mal à s'unir et à mettre en place des choses quoi. Dans les années 80 c'est pareil, il y a eu plein de déplacements de population, il y a eu des destructions de villages et l'attaque du gouvernement irakien la plus importante c'est en 88. C'est une attaque qui s'appelait Anfal, qui veut dire butin de guerre. Et là, il y a eu 20 000 villages détruits et de 50 à 100 000 Kurdes tués. Voilà, et on estime que sous le régime de Saddam Hussein, donc qui a duré de 1979 à 2003, il y aurait eu 1 million de Kurdes tués sur 5 millions de Kurdes. Alors, un autre truc à noter, c'est un peu l'histoire de comment ça s'est fait, cette autonomie de cette partie kurde en Irak. En fait, c'était pendant la guerre du Golfe, donc en 91, où comme c'était un peu le Bronx, il y aurait eu comme une autonomie de fait, en fait, de ces régions-là. Et à un moment, c'est des conseils ouvriers un peu d'influence marxiste qui s'appelaient Chouras qui dirigeaient toute cette partie-là. Mais en fait, il y a une répression très forte, donc ils ont fui. Et là, le Conseil de sécurité, l'Europe et tout ça, a dû établir ce qu'on appelle un abri de sécurité. Et du coup, il y a cette région autonome qui a pu être créée sous la protection des Américains et des Britanniques, et qui sont gérées par les deux parties kurdes. Et du coup, c'est aussi pour ça que quand il y a eu les États-Unis qui sont un peu arrivés en Irak comme ça, et ben apparemment, ils ont été assez bien accueillis par les Kurdes dans ces régions-là, parce que ils sont vus comme des gens qui les ont aidés à établir cette région autonome, quoi. Et sur ces deux parties-là qui dirigent un peu cette région du Kurdistan, le PDK et le UPK, on peut peut-être préciser qu'en fait, il y a des gros conflits entre ces partis. Là, ça va un peu mieux. Mais pendant des années, il y a eu des conflits vraiment très sanglants. Et le PKK, dont je reparlerai plus tard, qui est le groupe politique, le parti turc-kurde, a aidé en fait, l'UPK à lutter contre le PDK. Enfin voilà, ça fait un peu des guerres genre fratricides où il y a eu pas mal de Kurdes tués par des Kurdes.
Mais juste comme ça, c'est que c'est vraiment, ça remonte après-guerre en 1920 où les Britanniques, eux, ils se sont dit on va constituer l'Irak parce que là, c'est vraiment plein de puits à pétrole et en divisant les Arabes et les Kurdes qui étaient islamiques. Et c'est vrai, ça remonte vraiment à loin, c'est vraiment un peuple utilisé, quoi. Quand j'ai vu des trucs dessus, ça fait genre, ça sert bien la gorge.
Ouais, et puis on voit bien le rôle qu'a eu l'Europe dans tout ça.
Mm-mm.
Bon, alors pour finir. Donc la Turquie, bon c'est pas là qu'il y a le moins à dire, mais je vais essayer de faire assez vite. Bon alors en Turquie, les Kurdes c'est à peu près 20% de la population, donc ils sont un peu répartis dans aussi des grandes villes, mais ils sont plus précisément concentrés dans le sud-est, qui est une région assez montagneuse et assez où les conditions de vie sont pas forcément faciles. Et alors, c'est pareil, là, quand la République turque s'est mise en place en 1923, avec Atatürk et tout ça, il y a une oppression des Kurdes hyper forte, et la langue a été interdite, et même le mot kurde était tabou, et resté tabou assez longtemps, c'est un mot interdit. Et du coup, les politiciens, ils parlaient des Turcs des montagnes. Et après, alors en 1950, il y a eu une tentative avec un gouvernement un peu plus ouvert d'intégrer plus les Kurdes dans des postes clés au niveau politique et tout ça. Mais il y a eu un coup d'État en 1960 qui a tout arrêté. Et voilà, il y a quand même toujours ces idées un peu d'aller-venue. Dans les années 70, bah, comme dans beaucoup de pays, il y a eu beaucoup d'agitation politique avec les milieux étudiants et tout ça. Et là, il y a le mouvement kurde qui a connu une évolution marxiste assez forte. Et c'est là que le PKK a été créé. Donc c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Et depuis 1984, là, il y a vraiment eu un passage à la lutte armée, le début de la guérilla qui est lancée par le PKK notamment, et qui continue toujours plus ou moins, en fait. Il y a eu des tentatives de cesser le feu plus ou moins longs, mais qui étaient parfois décidées unilatéralement par le PKK et pas suivies par le gouvernement turc. Et bon, du coup, ça n'a jamais vraiment donné une finalité satisfaisante. Et aussi, un truc qui est important sur comment se passe cette lutte, c'est qu'il y a des milices, en fait, kurdes, qui sont payées par le gouvernement turc dans les villages pour un peu empêcher les actions du PKK ou faire des trucs de surveillance et d'information, quoi.
C'est des groupes du Hezbollah. C'était surtout hyper fort dans les années 90 où nous, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'ils, ouais, c'était bah, des Kurdes et qui tuaient d'autres tuaient d'autres personnes. Et il y a d'autres affaires comme ça qui sortent en ce moment en Turquie.
Et bah, du coup, voilà, au cours de tout cette guérilla qui continue un peu toujours, un bilan qui est estimé, c'est qu'il y aurait eu 3000 villages kurdes détruits par les Turcs et des milliers de Kurdes déplacés. Et il y aurait eu genre 40 000 morts, dont la majorité au sein du PKK. Et il y a aussi beaucoup de Kurdes en prison. Au niveau de la politique un peu plus institutionnelle, légale, blabla, le parti kurde principal au Kurdistan, c'était le DTP, parti de la société démocratique. Alors, ils ont participé aux élections législatives en 91, et là, il y a eu 4 députés. Mais en fait, aucun n'a fini son mandat, parce qu'ils ont tous été arrêtés. Et la plus connue, c'est Leyla Zena, qui était la première femme kurde députée, qui a été condamnée à 15 ans de prison et qui a été encore recondamnée récemment parce qu'en fait, déjà, elle a parlé en kurde. Elle a dit en kurde au Parlement, genre, je voudrais une amitié entre les peuples turcs et kurdes, et qu'elle était accusée de porter les couleurs du Kurdistan Et que voilà, elle a été accusée de propos séparatistes, en fait. Ensuite, en 2007, il y a eu 21 députés, donc c'était un peu plus important. Mais en fait, le 11 décembre 2009, là, donc tout récemment quand même, ce parti a été dissous pour ses liens avec le PKK. C'est la Cour constitutionnelle turque qui a décidé ça, même si l'Union européenne était contre et le Premier ministre turc aussi. Et ça, l'influence de l'Union européenne, elle est aussi assez forte, parce que comme la Turquie veut rentrer dans l'Europe et qu'on leur a dit « Ah oui, quand même, il faudrait faire un peu attention à ce qui se passe avec les Kurdes, ça a l'air un peu tendu », eh ben, il y a eu des relâchements de la répression, ou bon, en théorie, après, je ne sais pas ce que ça donne vraiment sur le terrain, mais en tout cas, depuis 1991, l'usage de la langue kurde est autorisé. L'enseignement est autorisé, mais juste dans des institutions privées. Il y a une chaîne qui diffuse en kurde, de la radio aussi, mais c'est très limité. À la radio, c'est une heure par jour, et à la télé, c'est encore moins. Donc, ça reste encore des... Enfin, c'est très lent, quoi, le développement d'une reconnaissance comme ça, un peu, de la minorité kurde. Et aussi, ce qui pose un peu problème, c'est que les déplacés peuvent pas rentrer chez eux, chez elles. Il n'y a pas d'amnistie pour les prisonniers, et l'existence du coup de cette minorité est pas reconnue. Même si l'état d'urgence au Kurdistan a été levé, ce qui est déjà un mieux, parce que du coup, depuis vraiment de longues années, il y avait cet état d'urgence sur une grosse partie des territoires occupés par des Kurdes. Voilà, je sais pas si Anne-Claire veut rajouter quelque chose.
Mais en fait, le DTP, genre, c'était, il y a eu 10 partis différents, et à chaque fois, il a été interdit. Et à chaque fois, c'est là où les personnes se faisaient arrêter. Et là, quand il a été interdit en décembre, il y a eu des grosses émeutes. Et par exemple, le truc qui était assez trash, c'était d'autres Turcs qui tiraient sur les manifestations kurdes. Qu'en fait, comme l'État, il est un peu en train de sortir, en train de dire « Non, on veut faire une amnistie avec les Kurdes. » Mais ça fait 20 ans que l'État turc dit « Mais eux, c'est des sales tueurs d'enfants, violeuses de femmes, des méchants. Ils sont horribles, c'est des fascistes, ils veulent la fin de l'État turc. » Ben, en fait, maintenant, la barrière entre les gens, c'est entre les Kurdes et les Turcs. Et donc là, il y avait des personnes qui nous disaient à Izmir ou à Istanbul qui se sentaient super menacées par les Turcs, et voilà.
Alors, on n'a qu'à parler vite fait du PKK. C'est pas vraiment un parti au sens où on peut l'entendre, genre un parti politique, tout ça, qui a des candidats, blablabla. C'est tout un mouvement politique, en fait. C'est créé en 1978 par Abdullah Öcalan, qui est resté le dirigeant jusqu'à son arrestation en 1999, et qui est toujours un peu vu comme un des dirigeants, en fait, même si il est tout seul sur sa petite prison sur une île. Ça a l'air horrible, bref. Et du coup, il a quasiment un statut de dieu, quoi. Vraiment, il est adoré au sein du PKK, et son surnom, c'est Apo, qui veut dire oncle. Et voilà, alors le PKK, il est sur les listes officielles des organisations terroristes, notamment de la Turquie, de l'Union européenne, de l'OTAN, des États-Unis et d'autres pays comme ça. Alors son objectif à l'origine, c'était d'obtenir un État kurde indépendant. Mais maintenant, c'est l'obtention des droits linguistiques, culturels et existentiels des Kurdes, et plus une idée d'avoir une autonomie au sein d'un système fédéral. Et l'amnistie pour les rebelles et la libération de Öcalan, notamment. Parce qu'en fait, un État kurde, ils se disent que c'est pas réaliste, vu que c'est sur quatre pays, et que les gens parlent des fois des dialectes différents et ont des cultures différentes. Alors aujourd'hui, on estime qu'il y a 5000 combattants, combattantes dans le PKK, dont 30% seraient des femmes. Et ces femmes, elles sont soit dans des groupes mixtes, aux côtés des hommes, dans la guérilla et tout ça, soit dans des groupes non mixtes. Et bon, y a, dans les années 90, on estimait qu'il y avait 50 000 combattants dans le PKK, mais il y en a eu beaucoup qui ont été tués aussi. Et que depuis un peu la fin, plus ou moins, de la lutte armée qui a été décidée après l'arrestation de Öcalan, il y a aussi moins de combattants, visiblement. Alors, bon, le PKK, il a changé de nom officiellement. Après, du coup, ce renoncement à la lutte armée, là, en 2001, ça s'appelle le KADEC, Congrès du Kurdistan pour la démocratie et la liberté. En 2003, ça change encore de nom. A priori, il renonce plus ou moins au léninisme. Et là, ça devient KGK, ou Kongragel, Congrès du peuple du Kurdistan. Mais en fait, on en parle toujours comme le PKK, quoi, qui regroupe plein d'autres groupes. Et bon, en 2004, le cessez-le-feu qui avait été instauré à l'arrestation de Öcalan a un peu pris fin, quoi, et les combats ont repris. Et bon, du coup, on peut un peu parler des moyens d'action du PKK. Du coup, c'est des moyens d'action de qui met un peu une cette idée de guerre de basse intensité là avec la propagande par le fait des attentats, des kidnappings, la succession directe. Après, je sais pas, Claire, si tu veux en dire plus sur ces moyens d'action, mais ah non, on n'a pas le temps. Très bien. Bon, et puis on peut. Alors, je peux juste dire pour finir qu'en 2008, il y a un comité anti-PKK qui a été créé par le gouvernement irakien, turc et américain pour mettre fin aux activités du PKK.
Voilà, donc avant de rentrer plus dans le vif du sujet, le mouvement des femmes à l'intérieur du PKK, on va écouter un morceau de musique. Donc c'est un morceau de Aynur Dogan, qui est une chanteuse contemporaine kurde. Le morceau s'appelle Keçe Kurdan. Désolée pour la prononciation qui sûrement est mauvaise. Donc c'est un morceau sur l'émancipation des femmes. C'est un appel à la révolte, à l'éducation pour les filles kurdes, à la lutte et à la fierté de l'identité de fille kurde.
Buradan
Vous êtes sur Dégenré, Radio Kaléidoscope 97 FM, donc une émission sur les femmes kurdes dans la lutte armée. Alors, on s'est aussi penché sur ce sujet parce que l'année dernière, à Grenoble, donc en juin dernier, il y a eu une projection d'un film, Les femmes du Mont Arara, donc qui est un documentaire de 2004. Qui retrace la vie d'un manga de femmes. Donc un manga, c'est l'unité de base de la guérilla, donc qui est composée de 6 combattantes au Kurdistan. Ce film, il était aussi accompagné d'une sorte de conférence, présentation de Devidar, donc qui habite en Allemagne et qui fait partie du mouvement des femmes kurdes pour la paix. Donc là, en fait, on a fait un petit montage de son intervention après le film, qui explique plus la situation. Alors vous allez l'entendre au montage. Ce qu'on a monté, c'est la traduction en direct de la conférence. Donc le fait que ça soit une traduction fait aussi que le style n'est pas toujours fluide, etc. Mais cela dit, c'est vraiment intéressant et donc ça va présenter plus en détail la naissance d'un mouvement de femmes non mixtes à l'intérieur du PKK, donc le Parti des travailleurs kurdes.
Je suis Evida, je viens du bureau des femmes pour la paix de Düsseldorf. Nous nous sommes fondées en l'an 2000. En 1999, le PKK a fait un cessez-le-feu et ils ont commencé une phase de paix. Nous nous sommes formés pour supporter cette phase de paix. Nous avons fait des activités politiques. Nous avons fondé d'autres projets au Kurdistan. C'est la base politique de nos activités. Un autre de nos thèmes, c'est les violences faites aux femmes. Nous avons mené des campagnes avec les femmes sur des thèmes de société. Nous essayons de rendre public et de communiquer sur le mouvement des femmes kurdes. Nous faisons aussi du travail avec des organisations de femmes de l'Europe. C'est ça notre but. Un développement presque incroyable qu'il y a peu de temps encore, personne au Kurdistan n'aurait pu considérer comme étant possible. Le premier objectif de l'Union des femmes patriotiques du Kurdistan, YJWK, a consisté à organiser et à mobiliser les femmes pour la libération nationale du Kurdistan. Il s'agissait d'abord de motiver les femmes pour participer aux rassemblements, manifestations et d'autres réunions politiques. Dans la société kurde, il n'était à l'époque pas évident pour les femmes de sortir de chez elles. En 1989, les femmes ont pris des rôles de dirigeantes. Ceci a conduit à un changement du statut des femmes et cela a donc été un pas révolutionnaire pour le changement de conscience à la fois des femmes et des hommes. Des milliers de femmes ont rejoint la guérilla. Le nombre croissant de femmes dans le maquis et la participation active de femmes à la vie politique civile ont nécessité une organisation qui dépassait la seule libération nationale. Le premier congrès de femmes a lieu en 1995 lorsqu'a été fondée l'Union pour la libération des femmes du Kurdistan, YAJK. Un des résultats les plus importants de ce congrès a été l'apprentissage collectif que les femmes peuvent être fortes et malgré cela féminines. C'est un long chemin, dur à parcourir, surtout dans la société kurde où la féminité est généralement synonyme de faiblesse, d'ignorance et de manque d'initiative. Le but consistait à ce que les femmes s'organisent partout de façon autonome. Il s'agissait de commencer l'essai dans le maquis, puis de le transposer petit à petit dans la société civile. C'est pourquoi nous avons commencé en 1995 à mettre en place l'armée des femmes. L'organisation de l'Union YAJK est basée sur l'idéologie de la libération des femmes en tant que théorie du lâcher-prise, c'est-à-dire un détachement de toutes les caractéristiques réactionnaires du système patriarcal. Il s'agissait d'une révolution dans la pensée contre le système de domination viril. En 1998, considérant le niveau de la lutte de libération des femmes que nous avons atteint, nous avons discuté l'opportunité de fonder un parti des femmes. L'organisation, en tant que YAJK, n'était plus suffisante pour mettre l'idéologie de la libération des femmes en pratique. C'est pourquoi nous avons décidé de fonder un parti. Le parti PJA se proposait d'organiser davantage de choses dans le domaine social parmi la population, donc de ne pas se limiter à formuler une revendication intellectuelle, mais de trouver un langage politique et pratique compris par le plus de femmes possible. Le PJA aborde de plus en plus en public le problème de la violence à l'encontre des femmes, aussi bien au Kurdistan qu'ailleurs. Dans les médias kurdes, on donne de plus en plus la parole aux femmes qui ont été victimes de violences. Ainsi, le courage des femmes du PJA permet de casser systématiquement un tabou social. En plus, de nouvelles organisations de femmes voient le jour au Kurdistan et se consacrent à ce sujet. Au niveau international, le PJA cherche de plus en plus le dialogue avec les organisations de femmes. Un modèle démocratique pour des idées démocratiques. Mais comment a-t-il été possible que des femmes puissent développer des structures démocratiques dans un système non démocratique ? Car ce système avait une structure de parti et rassemblait beaucoup au système patriarcal de l'État. Le 5e congrès a décidé de démonter petit à petit le modèle du parti centralisé, hiérarchique et à une organisation verticale. On a souhaité le remplacer par un modèle démocratique à structure horizontale et basé sur la solidarité mutuelle. Développer une démocratie sous des conditions de guerre n'est pas chose facile. Mais vouloir avec persévérance développer la démocratie dans de telles circonstances est révolutionnaire. Ça paraît peut-être facile comme ça, étape par étape, mais ça n'a pas été facile à mettre en place. C'est un développement que personne ne pouvait, quelques années auparavant, s'imaginer encore au Kurdistan. Parce que c'était pas évident au Kurdistan que simplement les femmes puissent passer le pas de la porte et aller dehors. Maintenant, les femmes ont leur propre armée, leur propre structure et leur propre organisation. Elles restent pas dans les montagnes, c'est partout au Kurdistan et aussi en Europe. Au début, elles participent aux débats, aux conférences, aux manifestations pour la libération du Kurdistan. Et ensuite, des milliers de jeunes sont allés dans les montagnes au Kurdistan rejoindre la guérilla. En rejoignant le maquis, les femmes ont acquis une conscience patriotique et aussi une conscience de genre. Comme je l'ai dit, elles ont rejoint le maquis pour fuir les structures archaïques de la société. Mais quand elles ont rejoint le PKK, elles sont confrontées au même genre de problèmes qu'elles avaient dans la société. Parce que pour les gens du PKK, c'était comme ça, c'était d'abord la libération nationale et ensuite la libération des femmes. Parce qu'au Kurdistan, et comme dans le reste de l'Est, c'est connu que les structures sont très fortement imprégnées chez les hommes, les structures patriarcales. Donc c'est des gens qui disaient « on veut la révolution », mais dans leur tête, ils n'avaient pas encore tout déconstruit, quoi. Donc en fait, ça a conduit un clash entre les hommes et les femmes à l'intérieur même du PKK. Ça a été un pas révolutionnaire pour les femmes comme pour les hommes.
Et les femmes se sont organisées pour pouvoir participer dans un Kurdistan libéré à la construction de la société. Je voudrais donner quelques exemples concrets pour illustrer ce clash entre les femmes et les hommes au sein du PKK.
Donc après Abdullah Öcalan soit arrêté, il y a eu le 7e congrès du PKK. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment que les femmes aient leur propre organisation. Et les hommes ont voulu prendre des décisions comme d'abord la libération nationale et ensuite les femmes. Beaucoup de femmes n'ont pas pris part à ce congrès et se sont coupées les cheveux en forme de protestation.
Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes quand elles ont essayé d'établir leur propre armée, parce que les hommes ont dit « vous avez votre propre armée, donc vous êtes obligés de tout faire vous-même. Vous devez avoir votre propre système de garde pendant la nuit et tout. » Et comme elles ont appris à tout faire elles-mêmes, elles ont payé en mourant, enfin pas beaucoup. C'est ça le contenu de la théorie de lâcher prise, théorie de la séparation, de lâcher complètement le système et ne plus être dépendant physiquement, ni mentalement, ni d'aucune manière des hommes pour les femmes. Je voudrais donner un exemple que les femmes kurdes m'ont dit à l'époque. Elles m'ont dit que la bataille contre cette opinion de leurs propres camarades était plus difficile que la guerre contre l'ennemi. À présent, le mouvement des femmes a beaucoup avancé et a ses propres structures en montagne, mais aussi dans le reste du pays et en Europe. La perspective est qu'une alternative n'est possible qu'en réduisant les hiérarchies. Le mouvement des femmes a maintenant une position importante dans le PKK et dans la population entière.
Ici en Europe, il y a aussi des projets où, du mouvement des femmes dans lequel des hommes sont formés. Il y a des projets où les femmes peuvent subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Vous avez vu dans le film qu'il y a beaucoup de filles qui se suicident et qui s'immolent. Maintenant, en fait, ça s'est amélioré puisqu'il y a des endroits où les femmes peuvent aller et demander de l'aide. Le résultat de ce mouvement de femmes, c'est que partout au Kurdistan et aussi dans les grosses villes d'Allemagne, il y a des conseils de femmes. Elles ont plein de domaines et, qui correspondent à leurs différents besoins, donc social, politique, la famille. C'est un grand progrès puisque les femmes règlent leurs problèmes elles-mêmes avec leurs propres mains. Nous sommes aussi un résultat de ce mouvement des femmes kurdes. Nous avons notre bureau et nous faisons notre propre diplomatie, nos propres bureaucraties et nos propres actions. Bien sûr, il s'agit de trouver une solution à la question kurde, mais c'est aussi avec notre propre perspective de femme qu'on fait ça. Donc la stratégie, en fait, c'est pas d'être contre le PKK, parce qu'elles se battent avec le PKK pour un pays libre. S'il y a un désaccord, ils en parlent, mais ils se battent quand même ensemble. Aussi, dans le film, on parle du code d'honneur. Nous allons avec les femmes au Kurdistan et nous faisons des conférences et nous parlons de cette question des crimes d'honneur et du code d'honneur. Et c'est très subversif, en fait, de parler de ça à l'intérieur de la société. La campagne qu'on a menée, c'était « Mon honneur et ma liberté, je ne suis l'honneur de personne ». C'était pas facile parce qu'on a eu des problèmes à l'intérieur de l'organisation même avec des hommes, parce que c'est un point très sensible, en fait, cette question d'honneur. Et par exemple, la campagne « Mon honneur, c'est ma liberté », en fait, elle parle de l'excision, aussi du lynchage. Et en fait, ce qu'elles essaient de faire, c'est pas que parler aux femmes, mais c'est aussi de parler aux hommes. Naturellement, il y a des désaccords.
Donc, quand il y avait cette campagne « Mon honneur, c'est ma liberté », ce mot « honneur », c'est « namus ». Et pour chaque lettre du mot, ils ont pris un symbole, enfin un autre mot qui commence avec la même lettre. Et c'était tous des mots qui étaient contre les femmes. C'était « tais-toi » ou bien « la mort » ou enfin d'autres mots négatifs comme cela. Et une lettre de ce mot signifiait « vierge ». Et cela, le PKK n'a pas voulu l'accepter. Ils ont dit « vous n'allez pas montrer cela à la télé ». Parce que c'est un point très sensible pour toute la société. Et c'était quand commençaient les élections régionales. Et donc le PKK suivait un peu la même stratégie que l'AKP au niveau national, à dire « c'est un point très ou trop sensible pour la société, donc comme nous voulons vraiment gagner aux élections, s'il vous plaît, commencez votre campagne après les élections ». Mais cette fois, les femmes kurdes ne l'ont pas accepté. Donc la mentalité était d'abord la libération nationale, après la libération des femmes. Et maintenant, après que les élections communales aient été gagnées, aussi les membres du PKK apparaissent à la télé et disent « la femme, ce n'est pas un truc qui appartient à quelqu'un, la femme, ce n'est pas l'honneur ». Donc le but, ce n'est pas d'éloigner les hommes, le but de faire changer les mentalités.
En fait, ce que je voulais bien vous représenter, en fait, c'est que c'était pas du tout facile pour les femmes kurdes de créer elles-mêmes leur propre organisation. Elles sont représentées non seulement en politique, mais il y a beaucoup, par exemple, de femmes qui sont mères au Kurdistan. Ce que je voulais dire aussi, le deuxième point, c'est que dans le maquis, il n'y a pas seulement la lutte armée, il y a aussi une vie qui s'est construite. Là, dans le maquis, en fait, elles peuvent créer leur modèle de société et s'émanciper. Et là, elles font un modèle de société qui n'est pas seulement théorique, mais elle l'applique et elle pratique.
Je suis une fille, personne ne sait comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie. Je suis une fille, personne ne sait comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie. Bu ezli kitim etiden yeşil tarih veririn cime penan abe halu edemi ha halu edemi keti sirimin ve eşi dünyayı.
مجموع بو ما صوت ملهم مر تمام بين جهات تنايا از يو ويكي تمام اسكتشم جلكي ديرينم اسكتشم شابالو شيرينم اسكتشم بري تانو وك شربانا ازاديه اسكتشم اوين دارم وك سينة دلال اسكتشم دزين زمن فش بري ومان
Personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie. Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie.
Je te souhaite que le cerf se calme. Kırından bir zeve dedan Serbanlığımı nema cihe kebo kure şilan ma Teneli vire cihe kurdu kergedan Man van ciyan demen Tarıma kırın Man van dünya lemen Serbın kırın Duhu ez bun gule ki na batman uvani İro ezim sor gule ki ber kokuştuni Es keçim gele ki derinim Es keçim şerpalur şerinim Es keçim beri tanım vek şerbana azadiye Es keçim evin dar
Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie. Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie.
شانده جدا تیمنی نه هستن کرلکتی یکتن بدنه خودی لدرکتی دوه از نبیم بر ویان نکشانده رفانده ادی بسته دیچتی مزا کرنا بو میران از سکچم بردارم رنگ دانا بو جیانم نبابمه ناغمه نیارمه دوه نوین نوتروانه ناموسمه اول کم نشوپی دیجواری زیور کرن دوه افتشتن ویسا ادی نبه نانا بسه ایو نمافیه Bese ev, tarihçiye Bıla nebe dor edin Dora kakıştiyan Kerge işleyen hesi hesi geçkeri Mahalli sera hali serberi Buna vejim düçen ekin Resmi lan bir nehe Care çave huvekin Çave huvekin
Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis Depuis que je suis née, je ne sais pas pourquoi Mais moi je sais que je veux toujours gagner Je suis une fille qui gagnera Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie. Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais que je veux toujours gagner. Je suis une fille qui gagnera toute sa vie. Je suis une fille, personne m'accepte comme je suis depuis que je suis née. Je ne sais pas
Donc Dégenré sur Radio Kaléidoscope, l'émission sur les femmes kurdes dans la lutte armée. On vient d'écouter après ce montage un morceau de Destenis, qui est une des seules rappeuses kurdes, qui ici chante avec Bidjet, donc une rappeuse française. Et c'est un morceau contre l'oppression des femmes et qui appelle à se faire respecter en tant que fille.
Alors maintenant, on va enchaîner avec un autre petit montage, justement extrait du film Les femmes du Moirara dont on vous parlait tout à l'heure. Alors peut-être pour ajouter un peu quelques mots sur ce film. Bon, le côté qu'on a trouvé très intéressant, c'est vraiment qu'il donne la parole à ces femmes qui sont dans les montagnes combattantes et tout ça. Et c'est des paroles assez rares et du coup assez précieuses. Après, on peut aussi faire quelques reproches à ce film, notamment du fait que le parti pris, c'est de suivre vraiment la vie quotidienne de ces femmes. Et du coup, à des moments, on a un peu l'impression de manquer un peu d'informations sur le contexte historico-politique des Kurdes, parce que du coup, il y a un peu des références à des choses qu'on ne comprend pas forcément très bien. Du coup, ça, c'est un peu dommage. Et c'est aussi, moi, je le mettrais en lien avec le fait que c'est un homme qui a réalisé ce film, en fait. Et ça se sent un peu dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup d'images autour des femmes à la rivière qui se lavent les cheveux, qui ne sont pas forcément celles que je trouvais les plus trépidantes. Mais bon, voilà. Il a quand même le mérite d'exister, ce film. Donc, On va passer quelques extraits. Du coup, il y a des témoignages de femmes qui se font en plusieurs langues. Du coup, nous, on a choisi une fille qui parle en français parce qu'elle a été élevée en France, donc elle parle très bien le français parce que c'est plus radiophonique vu que je pense pas beaucoup de nos auditeurs auditrices parlent kurde. Du coup, il y a d'autres passages qui sont vraiment super intéressants dans ce film, notamment quand les femmes rencontrent des hommes du PKK et discutent justement de tous leurs choix politiques et tout ça. Et un autre moment où les femmes des montagnes viennent dans des villages et rencontrent d'autres femmes. Et là, il y a des moments de discussion vraiment chouettes qui se mettent en place. Mais voilà, là, du coup, ça nous donne un peu quelques idées des motivations de cette femme qu'on va entendre à venir se battre dans les montagnes. Sen bir göçmen, ben bir garip, alayım seni, alayım da gurbet ele sarayım seni.
Pour la première fois que je suis venue, tout d'abord je suis montée une place très haute, puis j'ai crié. Tu sais qu'est-ce que j'ai crié? Azadi! Ça veut dire liberté! J'ai crié comme ça. Toutes mes amies ont cru que j'étais devenue folle. Elles m'ont regardé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries? J'ai dit, mais je suis libre. Ils m'ont dit, ah bon? On croyait que les filles qui viennent d'Europe, elles se croyaient libres. Je dis, vous pouvez penser comme ça, mais je pense que je suis plus libre que les filles d'Europe. Elles m'ont dit, pourquoi? Bah, elles sont libres parce que les filles d'Europe, elles ont les droits d'économique, elles ont le droit d'étudier, elles ont beaucoup de droits. Je dis, moi, j'ai le droit de crier très fort sur ces montagnes très hautes, de dire que je suis libre. Le problème, ce n'est pas d'être libre, le problème, c'est de crier d'être que je suis libre. Je détestais les Européens. Je les voyais, les Turcs, les Européens, je les détestais. Quand je les voyais, je me disais... je sais pas, j'avais envie de les... Quand je marchais dans la route, j'avais envie de les taper, quoi. Ça, c'est rigolo, mais c'était comme ça pour moi. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de parler, ils ont le droit d'étudier, ils ont le droit de faire tout. Ils ont le droit de tuer, ils ont le droit de faire... de violer nos terres, nos mères, nos sœurs. Ils ont le droit de faire tout. Mais quand ils arrivent à donner des droits pour, comme des humains, vivre bien dans quelque part, ils disent non, t'as pas le droit à toi. Moi j'ai le droit de faire tout, mais t'as pas le droit. Le monde est rond, il faut mettre en deux morceaux pour dire que voilà, toi t'es pauvre, toi t'es riche. Toi tu peux violer, toi tu peux violer, tu peux faire beaucoup de choses, mais toi tu peux rien faire. T'as pas le droit. T'as seulement le droit d'être violé, t'as seulement le droit d'être. T'as seulement le droit de pleurer, t'as seulement le droit de que ta maison elle se brûle, des trucs que tu seras obligé de faire quatre fois encore. T'as le droit d'être réfugié en Allemagne, en France et puis n'importe où. J'aimais mes parents, mais j'aimais aussi mon pays. Si je ne venais pas, je me sentais que j'avais trahi cette terre, que j'avais trahi ce peuple. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était quand je me suis quittée avec mes parents. Vers eux, je n'ai pas pleuré. Mais après que je suis entrée dans l'avion, j'ai pleuré. La dernière fois, c'était quand M. Öcalan, notre président, c'est le capot, il était fait attraper par les Turcs. Enfin, je veux dire, il n'avait rien fait de mal. Il m'a donné notre liberté, se battre pour un pays. Mais disons, notre ennemi, les Turcs, sont fascistes, franchement. Ils ont pris quoi, donc ça me dérange. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour lui. Aujourd'hui aussi, je pleure pour lui.
Elle, c'est la fille qu'on a été blessée ensemble pendant la guerre de 2000, ici. Moi, j'en ai pris 25 morceaux de bombe. Elle en a pris 4. Et maintenant, il m'en reste 4. Enfin, 25 morceaux, il m'en a tout sorti. Il m'en reste moins 4 morceaux. Un qui est juste ici, enfin, qui est rentré d'ici, qui est resté ici. Qui ne peut pas le sortir, le docteur. S'il sort, ça peut que je n'arrive pas à marcher, quoi. Enfin, je montre mon pied, petit pied. En fait, j'en ai un ici. C'est celui-là que j'en ai pris ici. puis l'autre. Un c'est ici, un ici, puis un au milieu, entre mes deux seins, quoi. Mais ça me fait pas mal.
Maintenant, ici, en montant, je suis caméraman en même temps. Peut-être que je suis militant, mais en même temps, je suis caméraman. Je travaille à la presse. Je veux devenir une journaliste qui a écrit que les vérités. Que les vérités. Et si je meurs, ma mère a pleuré, c'est sûr. Maman ne pleure pas, ok? Si, enfin, si je meurs pas, c'est pour leur dire la vérité. Mais si je meurs, un autre journaliste peut-être il dira oui, c'était un terroriste. Mais mes amis diront non, c'est pas un terroriste, c'était une fille géniale. On l'a perdue dans la guerre, on l'adore. Elle sera toujours dans notre cœur. Moi, pourquoi je suis une fille géniale? Parce que j'aime bien les humains, j'aime bien mes copines, j'aime bien la vie, j'aime danser, j'aime rigoler, pour ça j'aime faire des gestes, comment dire, comiques, clown, ouais. Mes amis pour ça ils m'aiment, et puis je pense que je suis une fille géniale quand je fais rigoler mes amis. Ok?
Alors, dans nos recherches de savoir plus sur le mouvement des femmes dans la guérilla kurde, on n'a pas seulement trouvé ce film dont on a entendu des extraits, mais aussi un livre qui était publié par Anja Flach en 2007, mais seulement en allemand. Alors, on a traduit plusieurs passages de ce livre qui s'intitule « Des femmes dans la guérilla kurde, motivation, identité et rapport de sexe dans l'armée de femmes du PKK ». Qui, en 2007, était publié aux éditions Papyrossa à Köln, qui est intéressante sur pas mal d'aspects. Déjà, Anja Flach, elle a vécu entre l'été 95 et l'hiver 97 sur le territoire de la lutte armée du PKK. Et pendant cette période, l'armée non mixte des femmes était en constitution. Lors de ses rencontres avec les combattantes, Anja Flach dit avoir été très impressionnée par leur assurance et leur force, et elle était confrontée à leur quotidien dans l'armée et à leur trajectoire de vie, leurs histoires personnelles, parce que beaucoup de ces femmes étaient venues de villages kurdes assez jeunes pour rejoindre l'armée non mixte. L'entrée dans la guérilla était très liée pour elles d'une rupture avec leur vie préexistante. Et elles rompaient d'une manière radicale avec leurs origines, leurs relations de famille d'avant. Dans toutes ces expériences et ces vécus de cette période-là, Anja Flach, elle les a notées dans un journal qu'elle a publié aussi en allemand en 2003. Et puis, pour approfondir la question, elle est retournée au Kurdistan en automne 2006 jusqu'au printemps 2007 pour faire des interviews avec les femmes, pour comprendre plus sur le fait comment leur motivation de rejoindre la guérilla est aussi une motivation pour une vie plus autodéterminée qu'elles cherchent par leur engagement dans la lutte armée, aussi la redéfinition de leur rôle et de leur identité en tant que femme. Elle a réalisé des interviews qu'elle a publiées donc dans ce livre dont on parle aujourd'hui, et on va vous proposer quelques citations de ces femmes qui parlent de leur vie. Et la méthode d'Anja Flach, c'est elle est ethnologue en quelque sorte, et donc son livre, c'est un mémoire universitaire. Les paradigmes un peu de l'ethnologie féministe, c'est de prendre comme point de départ les relations entre les sexes afin d'analyser des structures politiques, économiques, idéologiques et culturelles d'une société. Donc elle n'a pas tellement travaillé dans son livre sur l'aspect communiste ou idéologique plus grande du PKK, mais sur le rôle des femmes là-dedans et comment leur perspective de vie changeait avec cet engagement dans la lutte armée.
en entrée de son livre, elle pose la question sur comment la lutte de libération en général peut être aussi vue comme une lutte pour la libération des femmes. Et elle dit: la question de savoir à quel point l'engagement des femmes dans la lutte de libération anticoloniale, nationaliste ou ethnique induit leur propre libération est discutée d'une manière controversée entre féministes. Certains pensent qu'un tel processus change inévitablement les conditions de vie et les perspectives des femmes. D'autres argumentent que les femmes sont bien souvent reléguées à leur place traditionnelle après le succès de la lutte. Et elle cite aussi Edith Ludovic, qui a étudié le rôle des femmes dans différents mouvements de libération, qui constate que les femmes trouvent souvent des conditions plus propices à leur libération dans des luttes qui sont liées à des idées communistes. Mais elle tient à souligner que ce ne sont pas les mouvements socialistes qui amènent en soi une libération des femmes, mais que c'est bien la place qu'elles réussissent à y prendre qui va déterminer ça. Donc, dans son livre, elle propose une chronique de la constitution du mouvement kurde et comment, à partir de là, s'est constituée aussi l'armée non mixte des femmes. On peut peut-être commencer, après tout ce qu'on a entendu avant, déjà avec la guérilla qui, à la fin des années 70, s'est retirée dans les montagnes. Donc c'était le début de la lutte armée. Et à ces moments-là, au début des années 80, donc, les pourcentages des femmes dans la guérilla étaient très faibles, étaient seulement de 10%. C'était aussi lié au fait que les familles essayaient d'empêcher leurs filles de rejoindre la guérilla. Dans les années 90, il y avait pas mal d'insurrections populaires dans des villages kurdes. Et dans ces insurrections, les femmes prenaient une place importante. Et ça a encouragé pas mal de femmes, finalement, de rejoindre la guérilla. C'est à partir de cette période-là, alors le début des années 90, que des groupes non mixtes à l'intérieur du PKK se sont constitués. Les premières femmes dans ces groupes se sont heurtées à de nombreux problèmes. Elles n'avaient pas forcément l'habitude de porter elles-mêmes la responsabilité de diriger d'autres personnes. Elles n'avaient pas appris ça dans leur place traditionnelle. Et aussi, juste le fait d'évoluer librement à l'extérieur de leur famille était un apprentissage en tant que tel. Donc maintenant, on va enchaîner avec des interviews. Et Aïssel, elle en témoigne.
Ça a été très difficile pour les femmes parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait jamais apprises. Les hommes savaient tout faire.
Et Atish ?
Les femmes dans les mangas manquaient de confiance en elles-mêmes et envers les autres femmes. Elles ne savaient pas jusqu'où elles pouvaient aller dans la lutte. Elles ne connaissaient pas leurs forces. Les femmes ne se sont pas beaucoup soutenues entre elles. Elles ont discuté leurs problèmes, surtout avec leurs amis hommes. Au début, les femmes n'ont pas suivi les ordres des commandantes et elles ont refusé d'accepter les ordres d'une femme. Mais par contre, dès qu'il y avait un homme, même un simple combattant, sans compétence pour donner des ordres, elles acceptaient ce qu'il disait.
En 1995, l'Organisation des femmes libres du Kurdistan a été créée. Et en 2002, le Parti de la liberté des femmes du Kurdistan et la force militaire non mixte, qui s'appelle YJSTAR. SOSTAR, elle témoigne de cette période-là.
À cette période, en 2001, les femmes avaient dépassé l'idée qu'elles étaient incapables d'être à la tête d'un groupe en lutte. Il n'était plus possible de diviser les femmes parce qu'elles avaient établi leur propre système. Les hommes ne pouvaient plus dire « cette femme sait se battre, elle peut venir avec nous ». Cette possibilité n'existait plus. Les femmes ont établi leur propre ordre. Nous avons maintenant notre propre organisation, la YJSTAR. Les femmes se sont développées et organisées sur le plan politique, militaire et sur tous les plans. C'est pour cela que les hommes n'ont plus la possibilité de nous diviser et de se servir de femmes contre d'autres femmes.
Un autre aspect intéressant que soulève Anja Flart dans son livre, c'est que selon les périodes, les motivations des femmes, les raisons pour rejoindre la guérilla ont évolué. SOSTAR raconte son expérience dans les années 90.
Certainement, l'aspect idéologique communiste était le moins important. Je pense que 80% des femmes sont venues à cause de l'oppression de leur famille, à cause du mariage forcé, à cause du mariage des mineurs, parce que chez elles, elles n'étaient pas considérées comme des êtres humains.
Puis, Anja Flach, elle a essayé de comprendre à quel moment ou comment a pu s'établir une identité qu'on pourrait qualifier féministe, alors solidaire, d'être solidaire d'autres femmes, susceptibles de défendre les intérêts des femmes au sein de cette armée. Et elle a elle a essayé de comprendre aussi certaines, le rôle que jouent des symboles et des rituels au sein de l'armée pour ça. Elle a vu que le fait d'arriver dans le PKK, alors le PKK, tout imprégné de préceptes communistes, cherche à repousser les tendances sociétales d'individualisation et qui cherche à renforcer donc les structures collectives, s'appuie beaucoup sur des rituels et symboles. Quand une personne rejoint le parti et la guérilla, elle renonce à sa vie personnelle. Et donc, pour les combattantes, ça voulait dire aussi qu'elles changeaient complètement de vêtements, qu'elles arrivent et qu'elles sont équipées d'un uniforme, d'une kalachnikov et des grenades et des munitions. Ça peut mettre les femmes en tension entre une nouvelle identité de combattante et la tradition, comme Berivan, elle en témoigne.
Les autres combattants de la guérilla, ils voulaient que je porte le voile. Même à la maison, je n'en avais jamais porté. J'ai refusé. Tous ces combattants étaient peu éduqués. Ils avaient rejoint la guérilla pour des raisons émotionnelles.
Aussi, un aspect important dans le livre, c'est que dans la guérilla, la formation, et surtout la formation politique, joue un rôle important. C'est Anja Flach raconte qu'elle a souvent entendu le slogan proclamant que seulement 10% de la lutte est orientée contre l'ennemi et 90% vers la constitution d'une nouvelle personnalité. Donc, elle souligne aussi que l'accès à cette formation politique et à des académies de formation sur les questions stratégiques, ça change beaucoup le rôle des femmes. Elles ont accès à plus d'enseignements. Et aussi, l'inégalité entre les sexes fait partie entière de ces enseignements. Et dans les académies même, Anja Flach, elle raconte que les femmes vont dans les cours pour apprendre ce qu'elles doivent savoir en tant que femmes combattantes et aussi en tant que femmes qui commandent des groupes. Et les hommes, entre-temps, accomplissent toutes les tâches ménagères et font la cuisine. Et il y a une explication officielle qui est donnée à ce phénomène rare, que les femmes ont ainsi, évidemment, plus de temps pour suivre leurs cours, mais aussi que le patriarcat leur a valu 5000 années d'avance en ce qui concerne les tâches ménagères. Donc, elles peuvent bien arrêter d'en faire. Aussi, au sein du PKK, un aspect important, c'est que les relations traditionnelles entre hommes et femmes, alors relations sexuelles, relations de couple et le mariage, sont interdites. Et cette interdiction, elle est justifiée dans les communiqués du PKK avec la volonté d'empêcher des vieilles structures sociales à se reproduire. C'est un aspect quand même intéressant de dire, bon... Ici, on crée d'autres relations entre hommes et femmes, donc on interdit le mariage et le couple. Et Sarah, elle en témoigne de son expérience.
Il n'y a pas d'endroit libéré pour mener des relations libérées. Quand l'organisation a grandi, les influences de la société féodale ont été plus fortes. Je ne parlerai néanmoins pas d'une interdiction, mais d'un essai de créer une nouvelle forme de relation entre hommes et femmes.
Bah, par rapport à ce sujet d'une interdiction de rapports sexuels, on trouve ça quand même assez dogmatique, quoi, le fait d'interdire des rapports sexuels. Là, en plus, ce qui est imaginé, j'ai l'impression que c'est plus le fait d'avoir une sexualité dans une relation amoureuse hétéro. Et autant, j'ai l'impression que c'est intéressant de réfléchir à comment on peut construire d'autres rapports entre hommes-femmes, entre individus, et le fait de ne pas obligatoirement reproduire des schémas de couple, de l'unité du couple, etc. Après, le fait de le poser comme une interdiction, je trouve que c'est un peu bizarre. Et j'ai l'impression qu'on peut aussi se poser la question... Ok, du coup, est-ce que c'est pas aussi une négation de l'homosexualité ? Parce que si ce qui est remis en cause, c'est les schémas patriarcaux, ça serait aussi une autre. Enfin, ça serait aussi une déconstruction, par exemple, si la sexualité entre femmes ou la sexualité entre hommes était autorisée. Alors, je sais pas exactement c'est quoi les positions là-dessus ou s'il y a une réflexion là-dessus. Et puis, autre chose, c'est qu'on peut se poser la question, si ce n'est pas une interdiction qui est faite que aux femmes, vu que c'est dans le cadre amoureux et peut-être aussi bien les mecs, eux, ils continuent d'avoir une sexualité, par exemple en allant voir des prostituées, ce qui, j'imagine, par contre, n'est pas du tout possible pour les femmes. Donc ça se trouve, ça revient quand même plus à une interdiction de la sexualité faite juste aux femmes. Enfin, ça serait un truc à discuter, mais on avait envie un peu de se poser quand même des questions là-dessus.
En conclusion, Anja Flach dit qu'elle ne pas penser que le PKK aboutira un jour à une victoire militaire. Elle voit davantage les avancées sur le terrain de l'organisation des femmes et de conscience politique dans la population. Donc elle considère que l'identité de combattante a permis à beaucoup de femmes à occuper des positions influentes, même dans la société civile, et que ça, c'est la réelle avancée qui a permis le PKK dans la société kurde. Et elle écrit « D'un point de vue féministe, il me semble nécessaire d'échanger avec le mouvement des femmes au Moyen-Orient pour s'organiser contre la prise d'ampleur des mouvements religieux et nationalistes. »
Du coup, là, on a plus parlé des femmes directement dans la guérilla et dans la lutte armée kurde. Mais on se disait que peut-être, Anne-Claire, toi, tu pouvais nous apporter aussi un peu des éclairages sur ce que tu avais vu sur le mouvement des femmes en général, même si ce n'est pas dans la lutte armée. Et peut-être, avant de passer à cette partie-là, on peut écouter un petit morceau de musique d'une chanteuse kurde. Anne-Claire, tu as été pendant un moment en Turquie, au Kurdistan, et je ne sais pas si tu as rencontré non plus des femmes là-bas, des mouvements de femmes, et tu peux nous en parler.
Alors, nous, on a rencontré une maison de femmes à Van, qui est une ville vers la frontière iranienne et irakienne. Et là, c'est elles qui nous ont le plus raconté leur travail, mais sinon, on a rencontré différentes féministes à Diyarbakir, à Batman, dans d'autres villes, mais comme on avait des problèmes de langue, c'était pas forcément très simple de comprendre leur travail. Mais c'était aussi pour dire qu'il y avait une présence comme ça féministe un peu de partout, et notamment à Diyarbakir, au DTP, il y a une section femmes qui est non mixte, qui est dans la même idée un peu de tout ce que vous avez raconté, c'est qu'il y a un étage où c'est que les femmes qui travaillent ensemble, qui font du travail là-dessus, et voilà. Et donc la maison de femmes à Vannes, elle nous racontait qu'elles ont monté ça dans les années 90, elles étaient 8 féministes, et elles font du travail par rapport aux violences que subissent les femmes. Donc elles font des coups, elles essayent, genre si elles veulent partir de quitter leur mari ou de leur famille, elles ont des foyers où elles peuvent les accueillir, mais je crois que c'est vraiment tout petit. Et après, ce qu'elles nous racontaient, c'est qu'elles font du taf aussi avec les policiers pour qu'ils prennent en compte les plaintes des femmes, pour qu'ils les envoient pas chier, qu'ils leur disent pas « mais si t'es battue, c'est de ta faute, tu l'as cherchée », mais juste que ça soit qu'il y ait une écoute et une prise en considération de la parole de la femme. Et aussi, elles ont fait un film, par exemple, avec un festival féministe d'Istanbul, qui montre leur travail au quotidien avec ces femmes-là, qu'avec les femmes qui sont plus dans les villages, parce qu'il y a un lien, en fait, comme Van, c'est une ville de 500 000 habitants, elles sont en lien aussi avec tous les villages autour qui sont vachement plus paysans, et où les femmes, elles ont eu moins accès à l'éducation scolaire, et qu'elles peuvent être plus exclues.
Et du coup, vous y avez été, vous avez aussi un peu rencontré des femmes dans les villages ou d'autres organisations.
Eh ben, on a rencontré, on a rencontré des femmes, et après c'était un peu dur, parce que genre elles pouvaient pas bouger ou des choses comme ça. Dire la réalité après était vachement plus nuancée. C'est-à-dire que la sœur d'un ami à nous qui habite en France maintenant, elle connaissait pas son pays, elle restait juste chez ses parents, et là elle prenait en charge ses parents. Donc après ça faisait une réalité vachement plus vachement moins belle, un peu, où je partais un peu avec plein d'espoir de trouver un truc super fort, puis après juste comme en France c'est face à la complexité des relations humaines et de la lutte qui est en cours. Mais par exemple après à Diyarbakir, c'était assez intéressant, en fait. Une fille que j'avais rencontrée, elle par exemple, elle bossait dans une télé, et elle était dans une des télés kurdes, et donc ils faisaient de la traduction et ils faisaient des interviews de femmes, et elle était vachement en lien avec le DTP, et j'avais un peu l'impression aussi, c'était comment les femmes, elles commençaient à faire des choses, en fait, et juste à sortir des structures familiales. Parce que ce qui était super dur, c'était que fallait qu'elles soient mariées pour prendre en charge les parents. Et donc, en fait, c'était vraiment super dur de rentrer en contact avec les femmes et qu'elles puissent avoir une place hors de la famille et hors de la prise en charge des parents, soit des enfants. Et par exemple, nous, après, à Vannes, ce qu'on trouvait intéressant dans leur travail, c'était que elles abordaient tout, en fait, l'homosexualité, la transsexualité, la prostitution, et qu'elles étaient en train de faire un travail avec les maisons closes qui sont interdites à Vannes de prévention des risques. Et autour de la capote. Et par exemple, ça doit être un gros taf, parce que l'avortement, c'est encore interdit. Donc.
Ok. Mais je trouve aussi que c'est un truc qu'on sent dans le film, par exemple, quand elles vont voir les femmes dans les villages, où obligatoirement, j'ai l'impression que ça doit faire aussi. Une sorte de décalage entre, par exemple, des femmes qui sont dans la guérilla et qui, du coup. Sont vraiment indépendantes, portent les armes, etc. Et des femmes qui sont, par exemple, plus confinées encore dans la famille, qui ne peuvent pas obligatoirement sortir de leur village, etc. Enfin, que les choses se font petit à petit. Mais notre émission arrive à sa fin, mais on fera aussi une autre. On a prévu de faire une autre émission un peu sur le sujet de l'engagement des femmes dans des mouvements de lutte armée. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est, et j'imagine aussi, par exemple, pour des femmes kurdes, c'est que ça donne aussi un espèce d'exemple qui remet en cause, je trouve, un peu toutes les idées naturalisantes ou essentialisantes sur qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme, parce que ça montre, non, en fait, c'est possible, quoi. Des femmes, par exemple, elles peuvent vivre de manière indépendante, dans le maquis, en prenant les armes, décider par elles-mêmes, faire de la politique, etc. Et que ça fait un peu, je trouve, une sorte de... pas un modèle, quoi, mais un exemple que, en fait, si c'est possible, en fait, et que c'est pas une chose immuable, les rôles féminins et masculins.
Et puis après, moi, je trouve que c'est que cet exemple-là, il est assez intéressant, et même de commencer en fusion là-bas, parce que ça casse un peu le rôle, derrière l'image qu'on a sur les pays du tiers-monde qui serait plus archaïque, plus traditionnel, ou je sais pas quoi, Et pour rebondir là-dessus, parce que j'ai l'impression de donner une mauvaise image, mais par exemple, il y a vraiment beaucoup de mouvements de femmes aussi qui sont pour la paix, qui font des manifestations non mixtes, et là qui regroupent les femmes de leur mari qui est mort dans la guérilla, de leurs fils qui sont partis dans la guérilla, de leurs filles qui sont parties dans la guérilla, et que ça c'est un des énormes mouvements qui est en ce moment au Kurdistan et qui est vraiment super, super fort et qu'elles appellent à la paix.
Eh ben, on va passer un peu à quelques informations sur qu'est-ce qui va se passer à Grenoble prochainement. Par rapport au film dont vous a parlé, donc Les Femmes du Mont Arara, si vous voulez le trouver, c'est possible entre autres à la bibliothèque féministe. Donc je rappelle, la bibliothèque féministe, c'est 5 rue Bergson, donc dans le quartier de la Capuche. Et c'est ouvert tous les jeudis, donc de 16h à 20h. C'est possible de venir y emprunter des livres. Et il y a aussi un infokiosque avec des brochures à prix libre. Et en plus des livres, on a aussi quelques documentaires, films, etc. qui sont aussi empruntables. Et donc c'est 3 jeudis en non-mixité et donc le premier jeudi du mois en mixité.
Alors, dans les choses à faire à Grenoble en ce moment, il n'y en a pas plein, autant être honnête. Mais si vous nous écoutez mercredi soir, vous pouvez aller demain, jeudi 25 à 12h30, pour voir la présentation du travail en cours d'une compagnie qui s'appelle le Théâtre et Labor et qui présente... son travail du moment qui s'appelle Chute. En fait, il y a eu la forme courte qui a déjà été présentée et qui est vraiment un chouette spectacle autour d'un texte sur une personne intersexe. En fait, ça a été écrit par Noëlle Châtelet, qui est une écrivaine un peu connue, quoi, et qui avait une personne intersexe comme amie et qui a voulu écrire son histoire. Et du coup, à la présentation de leur travail en cours, il y aura peut-être Noëlle Châtelet présente aussi. Et il y aura un repas, donc ce sera très bon. Et ça se trouve, ça aura lieu au Théâtre des Peupliers. Donc c'est dans le cadre du Festival de la Marionnette et vous pouvez trouver plus d'informations sur leur site, dont je n'ai pas l'adresse là, mais voilà. Sinon, un peu plus loin dans le temps, le 12 mars, au Kremlitz, le Kremlitz, c'est un squat à Fontaine, 4 rue Saint-Nizier. Il y a un événement queer féministe avec à 17h à la projection d'un film qui s'appelle Travel Queeries, qui est sur le mouvement queer radical en Europe. Ensuite, il y a un resto vegan. Et ensuite, il y a 2 concerts, donc Ex-Best Friends, un groupe allemand, et Agatha, un groupe de Milan. Et voilà, c'est des groupes de meufs qui font de la musique qui est vraiment chouette. Et après ça, il y aura une boum. Et le tout, c'est 3-5 euros l'entrée.
Voilà, donc la prochaine émission dégenrée sera sur les interventions féministes, antisexistes dans les lycées. Enfin, comment faire de
la pédagogie féministe.
Voilà, comment faire de la pédagogie féministe. Et puis, on va vous laisser avec un morceau de la rappeuse kurde Des de Nice, dont vous avez déjà entendu... son morceau avec une rappeuse française, mais cette fois-ci elle chante toute seule et le morceau s'appelle Hop du Rousse.
Elemlerde, güreklerde, cenazeve dinlerde hop dediler. Jokladılar bizi, dövdüler. Çocuk ağlıyor yarından habersiz. Cesedi bulunmuş, kimliği belirsiz. Babası kayıp, anası sürgünde. Köy yakılmış, evleri yıkılmış. Kardeş aynı operasyonda çatışmış. Biri asker, diğeri gerilla. İkisinin de katili bu sistem. Anla anla, bu nasıl anayasa? Demokrasi nerede? Düşünce özgürlüğü tipinde bitmedi. Baktı kalmıyor bu gidişat böyle. Susan da susmayan da aynı kefede. Hop dediler lolo hop dediler. Bizi jopladılar bizi dövdüler. Hop dediler. Hop dediler. Hop dediler lolo hop dediler. Bizi jopladılar bizi dövdüler. Hop dediler. Hop dediler.
yıllarda meydanlarda 8 Mart'ta kadınlarda çevreciler, öğrenciler, dilenciler, direkciler, gazeteci, TV'ciler hop dediler. Şokladılar bizi, dövdüler. Analar ağlıyor, çocukları kayıp. Hayli veli bunların ayıp ayıp. İpaz ediliyoruz sokak ortasında. Üç maymun oynuyoruz her defasında. Söylüyor, söylüyor, itiliyor, kalkılıyor. Bu memlekette yok yok abi. Çete fuy salgı mafya devleti. Hortumlayan hortumlayana. Ne hukuk kalmış, ne adalet, ne de vicdan. Bu bir isyan. Sesine kulak ver ey insan. Hop dediler, lolo hop dediler. Bizi şokladılar, bizi dövdüler. Hop dediler. Hop dediler. Hop dediler, lolo hop dediler. Bizi şokladılar, bizi dövdüler. Hop dediler. Hop dediler. Hop dediler, lolo hop dediler. Bizi şokladılar, bizi dövdüler. Hop dediler.
Yok, yok, hayır. Şimdi joplanmaya inat.
Hop diyoruz, lolo hop diyoruz. Joplanmaya inat, direniyoruz. Hop diyoruz. Hop diyoruz. Hop diyoruz, lolo hop diyoruz. Joplanmaya inat, direniyoruz. Hop diyoruz. Hop diyoruz.
Bye.